Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
À Kiev, il est redouté et imprévisible. Ce sont familiers qui s'apprêtent encore une fois à transpercer la ville. En un instant, le quotidien des habitants est bousculé.
C'est devenu leur quotidien depuis plus de 2 ans. La vie rythmée par les sirènes d'alerte face aux raids aériens russes à Odessa, à Lviv ou comme ici à Kiev, devant les caméras de Radio-Canada l'été dernier. Depuis février 2022, la population ukrainienne vit sous la menace des missiles et des drones russes. Une population qui plie, mais ne rompt pas. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Tous les jours, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, géopolitique et sociale. Un podcast à retrouver dès 17h sur leséchos.fr et sur toutes les applications de téléchargement et de streaming.
C'est le fatalisme qui domine. Cette guerre devait finir vite et maintenant cela semble durer pour l'éternité et pour des générations. C'est terrible. Les enfants s'y habituent.
Les enfants s'habituent à la guerre. Le témoignage terrible d'un Ukrainien au micro de Nicolas Tonev, c'était sur Europe 1 il y a 2 mois. La fatigue s'installe et pourtant, le pays continue de se battre contre l'envahisseur russe. Yves Bourdillon, journaliste au service international des Échos, s'est rendu il y a quelques jours en Ukraine. Il a pu mesurer l'incroyable résilience de la société ukrainienne malgré les mauvaises nouvelles venues du front. Je l'ai appelé au téléphone pour qu'il me raconte ce qu'il a vu et entendu sur place. Bonjour Yves.
Bonjour.
Vous suivez depuis Paris l'évolution de la guerre en Ukraine en lien avec Guillaume Tak, notre correspondant à Kiev. Les auditeurs de La Story vous connaissent bien maintenant. Vous avez eu l'occasion récemment de vous rendre une nouvelle fois en Ukraine après 2 ans de conflit. Vous vous êtes rendu à Tchernihiv et quelques heures avant votre arrivée, il s'est passé ça. Le son d'un missile explosant non loin d'un groupe de civils attendant le bus, image diffusée sur NBC News. Ce jour-là, 17 personnes ont trouvé la mort lorsque des missiles ont frappé un immeuble d'habitation. Comme un rappel de ce qu'est la guerre, Yves ?
Évidemment, puisque les explosions sont à peu près quotidiennes en Ukraine. Alors, certaines villes comme Kharkiv ou Odessa subissent des bombardements massifs. Pour cette ville-là où je suis arrivé quelques heures après le tir de 2 missiles calibre, c'est plus rare. Mais c'est vrai que, oui, à tout moment, un missile peut arriver et faucher des vies comme ça, plus ou moins au hasard, parce que l'armée russe vise assez massivement des infrastructures ou des sites tout à fait civils. Parfois, ils visent aussi une réunion de militaires, comme c'était peut-être le cas dans cette ville. Mais en tout cas, oui, la guerre est présente tout le temps. Et une anecdote, tous les Ukrainiens ont sur leur smartphone une application qui les prévient, donc une sonnerie assez bruyante qui les prévient quand un missile arrive. Et en théorie, ils doivent aller dans l'abri, mais après 2 ans de guerre, ils n'y vont plus pratiquement, sauf quand ils voient que la trajectoire est vraiment sur leur quartier et que le type de missile est particulier, enfin un missile de croisière puissant.
Dans quel état d'esprit était la population que vous avez rencontrée ?
Très déterminée. Alors, il y a effectivement la peur. Même s'il la cache, il y a une espèce de flegme presque britannique ou stoïcisme, mais on sent bien que beaucoup tiennent avec des antidépresseurs, il y a de la colère contre la Russie. Un médecin que j'ai vu à Tchernihiv qui a soigné des blessés dont certains gravement disaient « on se battra jusqu'au dernier, jusqu'à ce que le dernier soldat russe quitte mon pays ». Donc, il y a de la colère contre la Russie. Il n'y a pas d'amertume face aux Occidentaux. Ils remercient la fourniture d'aide militaire, mais ils disent, je pense qu'ils ne comprennent pas ce qui est en jeu. Certains m'ont dit, c'est vrai que vous n'avez jamais senti l'odeur de la poudre ni vu un missile dans le ciel de votre ville, mais ils sont en tout cas très déterminés parce qu'ils ne veulent pas vivre sous la botte de Poutine. C'est vrai que toutes les familles connaissent des histoires de prisonniers, de gens kidnappés, que ce soit des enfants, des femmes violées, des gens dont on est sans nouvelles depuis un an, contrairement aux lois de la guerre, ou de soldats dont on sait qu'ils sont torturés. Donc ils sont déterminés, ils disent qu'ils ne lâcheront rien, ils ne sont prêts à aucun compromis, ne serait-ce qu'ils savent qu'un accord signé avec Poutine ne vaut pas plus cher que le papier sur lequel il est écrit.
Quand on lit votre reportage dans les pages des Échos, on comprend aussi que les Ukrainiens, d'une certaine façon, se sont habitués à la guerre.
Oui, à cause de ce que je disais, qui est le fait que si on ne dort que 2 heures par nuit, on craque. Donc du coup, les alarmes qui sonnent dans la nuit, la première fois, on descend dans l'abri, et puis ensuite, c'est en fonction des circonstances. Donc ils se sont relativement habitués parce qu'on n'a pas le choix, et puis que c'est aussi une manière de combattre, c'est-à-dire de ne pas laisser la société civile s'effondrer. Plusieurs dirigeants m'ont dit un choix a été fait de ne pas faire la mobilisation générale pour notamment permettre à l'économie de continuer à tourner et de financer notamment l'effort de guerre. Donc il y a tout un tas d'anecdotes, comme par exemple dans cette ville, les bénévoles ont nettoyé les vitres cassées quelques minutes après le... Enfin, une fois qu'ils se sont assurés qu'il n'y aurait pas une deuxième frappe, parce que la Russie aime faire ça, on frappe, et puis quand les secouristes arrivent, on frappe au même endroit pour tuer plus de monde. Mais après, au bout de 2 heures, on ramasse les verres cassés, parce que psychologiquement, c'est important de nettoyer, de dire on regarde devant. Et puis le directeur d'un théâtre me disait les répétitions vont reprendre cet après-midi, donc la vie continue.
Vous avez même observé des gamins qui s'entraînaient au biathlon, c'est ça?
Oui, absolument, avec un certain flegme. Et c'est des jeunes qui espèrent être membres de l'équipe olympique de biathlon, donc sur des patins à roulettes dans un champ qui avait été miné par les Russes avant d'être repoussé et qui donc a été déminé grâce à de l'aide allemande à côté de bungalows financés par les Polonais pour des réfugiés. Plus loin, le théâtre dont je vous parlais, le toit est rénové par une aide française. Donc, on voit au passage la solidarité internationale. Et effectivement, on continue. Donc, je vous raconte une autre anecdote. Les journalistes, j'étais avec des consoeurs de l'Express, de Radio France internationale ou du Guardian, parce qu'à plusieurs, on est plus intelligent que tout seul, accompagnés de gens d'un think tank franco-ukrainien, Eastern Circles. Et dans le minibus que nous avions affrété ensemble, on a discuter et évaluer les risques. Et puis, quand les compagnies d'assurance exigeaient qu'on ait casque et gilet pare-balles, on était les seuls dans la ville à voir ça parce que ce n'était pas nécessaire. Mais voilà, ça montre aussi la différence d'évaluation entre à l'ouest, dans leur bureau de loin, et puis les Ukrainiens sur le front qui font la part des choses entre les différents dangers.
Mais quand on est reportage comme ça dans un pays en guerre, on s'interroge sur les questions de sécurité. Ça fait partie là, presque du quotidien aussi des journalistes.
Forcément, puisqu'on a déjà une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, on n'est pas des têtes brûlées, vis-à-vis de nos proches et vis-à-vis aussi de nos médias, de ne pas faire n'importe quoi. Et en même temps, notre boulot est quand même d'aller voir le plus près possible de là où ça se passe. Donc la difficulté, c'est d'évaluer les risques, sachant que les informations sont contradictoires, mais on a nos contacts, nos sources sur le terrain, donc on discute par consensus, et on a des sources qui nous disent que finalement les bombardements sont terminés, que les gens dans cette ville, on s'est dit, si dans une ville de 150 000 habitants, les gens n'ont pas fui leur ville, c'est que le bombardement n'est pas trop massif, donc on peut y aller. Donc on l'a fait, mais évidemment, les compagnies d'assurance n'ont pas toutes suivi d'ailleurs, parce qu'il y a une autre grille d'analyse quand on est loin. Mais pour les reporters, ça fait partie du calcul, mais c'est un calcul où normalement on dit qu'on va voir.
Alors vous racontez dans votre article pour les Échos que lorsque les sirènes retentissent, certains se contentent de s'éloigner des fenêtres en terminant leur café. Et vous ajoutez, dans l'ensemble, les Ukrainiens semblent moins sur les nerfs qu'un Parisien par temps de grève du métro. Comment est-ce que vous expliquez cette résilience de la société civile?
D'une part, parce qu'ils n'ont pas trop le choix, je suppose. Si on veut tenir, c'est une guerre, donc il faut garder ses nerfs. Et effectivement, j'ai vu aucune altercation ni incivilité en Ukraine en une semaine. Mais c'est aussi peut-être lié à... Alors, le cliché, c'est le fatalisme slave, qui est un cliché, mais peut-être aussi une plus forte résilience liée à une histoire quand même très dramatique au cours des siècles. Donc d'une part, ils savent faire le dos rond et affronter avec un cran assez incroyable. J'ai interviewé des des mères et des femmes de soldats emprisonnés par l'armée russe, contrairement à toutes les lois internationales qui n'ont aucune visite, qui sont torturées et qui ne donnent aucune nouvelle. Et ben voilà, ils tiennent. Alors évidemment, il y a des antidépresseurs, il y a des crises de larmes, mais ils tiennent parce que c'est un caractère assez fort. Et puis ils se serrent les coudes et ils disent, ben vous savez, on a un pays. Voilà. Donc notre manière à nous de le défendre, c'est de garder nos nerfs.
C'est un grand honneur de vous rencontrer ici aujourd'hui, de vous soutenir et de vous récompenser, les gars. Je veux que vous soyez soutenus par vos proches et par tout le peuple ukrainien.
Volodymyr Zelensky sur la ligne de front fin février, un document de France 24. Le président ukrainien était venu soutenir des soldats dans l'est du pays. Tout le pays est derrière eux. On le disait, pendant la guerre, la vie à l'arrière a repris. Comment cela est-il perçu par les soldats, par ceux qui se battent ?
Bah forcément mal, mais comme dans toutes les guerres, le fossé est grand entre le front et l'arrière. Donc même si l'arrière essaye de vivre pour des raisons parfois financières et puis parce que c'est psychologiquement indispensable, le fait est que les soldats qui reviennent du front peuvent être choqués et le sont légitimement, mais bon, c'est comme ça. Donc le problème n'est pas forcément là, c'est que les soldats au front, on les relève très peu et donc certains n'ont pas eu de permission, ne sont pas rentrés chez eux depuis un an. Donc là, il faut trouver un moyen de faire des rotations et c'est le grand débat dans la société ukrainienne, mais c'est pas simple, parce que est-ce qu'envoyer au front des recrues qui sont peu aguerries, c'est très dangereux. Ceux qui tiennent la ligne sont expérimentés. Donc voilà, le débat, c'est pas forcément l'arrière face au front, c'est comment organiser les rotations et qui mobiliser et avec quelles armes, puisque c'est ça le vrai débat. C'est, ça sert à rien de mobiliser des jeunes gens s'ils n'ont pas des munitions et des obus.
Près de 77% des Ukrainiens affirment ne pas éprouver de fatigue de la guerre, selon un sondage cité par Oleksandr Meresko. C'est un député du parti au pouvoir, il vous a cité le boxeur Mike Tyson. « Quand je suis fatigué, je continue de me battre, car m'arrêter n'améliorera pas ma situation. » Alors vous avez justement, Yves, rencontré des responsables politiques. Quel regard portent-ils sur cette guerre contre le voisin russe ?
Eh bien, ils estiment qu'ils vivent ils jouent leur survie, la survie de leur pays, tout simplement. J'ai rencontré des responsables militaires du Conseil de sécurité, des députés de l'opposition comme du pouvoir, qui d'ailleurs, il y a une union sacrée, c'est-à-dire que d'une part, la sécurité est le sujet central, ralliement autour du drapeau, et donc on ne discute pas le but de guerre, on discute en revanche la tactique et certaines modalités, et d'ailleurs, ça montre que c'est une démocratie, parce que les deux députés que j'avais en face de moi s'interpellaient courtoisement mais vivement sur certains aspects, sur la concentration des pouvoirs, sur certaines erreurs. Mais c'est vrai que la priorité nationale, il faut qu'on reconquiert les territoires, et en tout cas, il faut qu'on tienne. Donc voilà, c'est comme ça que tous les dirigeants que j'ai vus, il y a un consensus très fort.
Quand on leur dit, quand on parle de dénazification, hein, qui est un argument avancé par le Kremlin pour justifier cette invasion de l'Ukraine, qu'est-ce qu'ils répondent ?
Ah bah, disons qu'ils éclatent de rire, plus ou moins. C'est-à-dire qu'ils font valoir d'abord qu'un régime nazi dirigé par un juif, c'est quand même assez novateur. Et puis surtout, l'argument du Moscou qui se targue d'avoir vaincu Hitler n'a aucun fondement historique, puisque d'abord, au-delà du fait que le régime soviétique s'entendait comme larron au foie avec Hitler jusqu'à la trahison de l'invasion de 1941, il rappelle quand même, et ça effectivement c'est vrai, que c'est pas la Russie qui a gagné, c'est d'abord, il y a eu les Occidentaux qui ont gagné aussi, et puis dans la contribution, ben, il y avait des Ukrainiens, des Kazakhs, des Arméniens, des Ouzbeks, donc la moitié des soldats qui combattaient contre Hitler n'étaient pas russes, et donc c'est très abusif que la Russie se targue d'être l'héritier de la lutte contre le nazisme, et la bataille a eu lieu en Ukraine pendant la Deuxième Guerre mondiale, où les Ukrainiens disent qu'ils ont perdu entre 6 et 8 millions de personnes. Les Ukrainiens aussi ont sacrifié face à Hitler. Donc ce discours, cette instrumentalisation de l'histoire est assez ridicule par le Kremlin.
Sans soutien américain, l'Ukraine pourrait perdre la guerre face à la Russie d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a déclaré Bill Burns, le patron de la CIA.
Il y a quelques jours, le directeur de la CIA a lancé un avertissement, comme on l'entend ici sur Euronews. Le risque est très réel que les Ukrainiens perdent sur le champ de bataille d'ici la fin de 2024, ou au moins que Poutine soit en position de dicter les termes d'un règlement politique. Sur le front, les nouvelles ne sont pas bonnes pour Kiev, Yves ?
Non, elles ne sont pas bonnes sans être catastrophiques pour autant. C'est-à-dire que cette analyse du directeur de la CIA doit s'analyser aussi comme une manière de mettre la pression sur le Congrès pour donner les munitions nécessaires à l'Ukraine, parce que l'état profond sécuritaire américain considère, non sans raison, qu'une défaite de l'Ukraine serait une catastrophe géopolitique pour les Occidentaux. Parce qu'au passage, les Ukrainiens disent qu'ils se battent pour nous, et ce n'est pas entièrement faux, dans la mesure où on sait très bien, tout le monde en Ukraine, mais aussi en Pologne, ailleurs, dans les États baltes, savent que Poutine ne s'arrêterait pas s'il gagne l'Ukraine. Peut-être qu'il prendrait 2-3 ans pour reprendre son souffle, mais il irait plus loin, parce que son objectif est de discréditer l'OTAN. Donc, aux États-Unis, cette phrase de la CIA est peut-être aussi une manière de dire, bon, il y a le feu au lac, il faut vraiment se mobiliser. Pour autant, je ne crois pas du tout que l'armée russe soit en capacité, parce qu'elle est épuisée aussi, hein, de prendre Kharkiv ou Odessa. Elle n'a pas les capacités de projection à long terme, ni même de disloquer la ligne de défense dans les mois qui viennent. En revanche, elle grignote, et au prix de pertes qui sont redoutables pour l'Ukraine, parce que l'Ukraine n'a pas une réserve de soldats énorme. Elle est quand même 4 fois moins peuplée que la Russie. Donc, les nouvelles, effectivement, sont très mauvaises, et il n'y a pas assez d'obus pour tenir, et l'Ukraine est obligée de reculer. Je ne pense pas que la ligne de défense se disloquera, mais dans les 2-3 mois qui viennent, le temps que les 14 milliards de dollars sur les 61 qui ont été votés au Congrès, mais le quart à peu près est constitué d'armement à livrer dans les prochaines semaines, le temps que ça arrive dans 3 mois, il y a 3 mois délicats où il y aura une offensive russe avec probablement 100 000 soldats mobilisés, et là, ça sera dur pour l'Ukraine qui devra sans doute encore abandonné du terrain.
Oui, justement, hein, effectivement, depuis votre retour à Paris, le Congrès américain a fini par voter ce vaste plan en faveur d'une aide à l'Ukraine. Mais aujourd'hui, on se demande, est-ce que ce n'est pas trop tard ?
Alors, ce n'est pas trop tard dans la mesure où le front ne va sans doute pas se disloquer, et puis que cette aide va aider, sans être non plus une arme magique, mais c'est quand même tout à fait précieux. Et effectivement, on peut se dire, mais pourquoi ils ont mis 4 mois pour finalement arriver à ce résultat ? Donc, pourquoi est-ce que Trump a mis 4 mois pour comprendre que c'était nécessaire ? Visiblement, récemment, il a eu des entretiens avec la CIA qui l'ont expliqué qu'il ne pouvait pas être l'homme de la défaite en Ukraine. Et donc, ça aurait pu se faire beaucoup plus tôt, parce que, en plus, les tractations, une partie de l'aide est sous forme de prêt. Voilà la seule concession que la Maison-Blanche a fait à une demande de Trump. Bon, ben ça, on aurait là aussi cette concession, un prêt remboursable à retour de bonne fortune, c'est-à-dire probablement jamais par l'Ukraine. Au passage, soulignons que les 61 milliards de dollars, bon, c'est à peu près 6% du budget du Pentagone annuel. Ce n'est pas une fortune pour les États-Unis. Donc tout cela aurait pu se faire plus tôt. Oui, effectivement, ça a été du temps perdu assez stupidement.
Vous avez aussi rencontré en Ukraine, je voudrais qu'on s'y arrête 5 minutes, une étonnante association caritative, Yves.
Oui, Come Back Alive ou Viernotiv en ukrainien, c'est une association étonnante puisque c'est une fondation caritative qui distribue des mitrailleuses, enfin, ainsi que des casques, des gilets pare-balles, des équipements médicaux, mais qui s'est rendu compte il y a 10 ans que l'État était inefficace, corrompu, bureaucratisé dans un effort de guerre, comme, à vrai dire, c'est un reproche qu'on peut faire à beaucoup d'États, et que donc la société civile pouvait s'emparer de ce sujet, ce qui est paradoxal, parce que normalement, faire la guerre est une prérogative exclusive d'un État, c'est pour ça qu'il a été créé, mais là, ils se sont dit, il faut faire quelque chose. Donc, ils collectent des dons en 2/3 en provenance de l'Ukraine, de citoyens, pour 100 millions de dollars par an. Et avec ça, ils ont acheté 1200 pick-up, des équipements de télécommunication qui sont très précieux pour les soldats pour se coordonner, des drones, 10 000 drones d'observation ou des drones de combat. Et donc, tout ça est un effort assez important et relativement transparent, puisque les donateurs qui ont donné à d'autres associations où il y a eu des problèmes de gouvernance, les associations ont disparu, celle-là est toujours là.
Et vous racontez, Yves, dans votre reportage, qu'un des acteurs et un des preneurs de son du théâtre de Tcherniv sont partis combattre sur le front. C'est ce que vous a raconté le directeur de ce théâtre. Les soldats attendent des munitions et des obus, mais on a compris que ça prendra encore un peu de temps. Et c'est pas qu'un problème de munitions, d'ailleurs. Pour l'Ukraine, la question des hommes devient aussi centrale.
Fondamentale. Actuellement, il y a trois soucis. Un, c'est la défense contre avions qui est insuffisante, parce que par manque de missiles anti-aériens et que donc des infrastructures sont frappées par l'aviation russe ou par l'artillerie russe. Le deuxième problème, c'est les hommes. Le troisième, c'est les obus sur le front. Mais les deux premiers sont essentiels. La défense contre avions et les hommes, parce que l'Ukraine est quatre fois moins peuplée que la Russie. Elle a 45 000 morts probablement parmi les soldats, selon des sources norvégiennes. Et en rajoutant les soldats gravement blessés qui ne reviendront pas, j'ai croisé des soldats amputés dont certains disaient « dès que j'apprivoise ma prothèse, je retourne au feu ». Au passage, leçon de courage assez hallucinante. Donc effectivement, il faut économiser les hommes. Et c'est pour ça que l'offensive n'est plus à l'ordre du jour. Il faut tenir en essayant d'éliminer le plus grand nombre possible de canons, de chars et d'hommes russes en économisant. Et là, on rentre dans un cercle vicieux, c'est qu'il y a tout un tas de jeunes gens qui évitent la mobilisation, des déserteurs, devant les bombes planantes russes tout à fait redoutables. Et c'est un cercle vicieux dans la mesure où on peut comprendre que ces jeunes ne veulent pas être enrôlés parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas d'obus, ils n'auront pas de munitions pour se battre. Ils ne veulent pas faire de la chair à canon. Et la société civile ukrainienne est assez vigilante là-dessus. Et on voit que c'est une démocratie, en ce sens que l'exécutif écoute tout cela. Et il y a effectivement un dilemme. Et l'aide américaine, d'autres aides européennes, on parle de batterie patriote, va peut-être briser ce cercle vicieux. Si jamais il y a assez de munitions, peut-être que les jeunes vont s'engager de manière plus importante. Et voilà, c'est les munitions appellent des hommes et les hommes ont besoin de munitions pour ne pas être de la chair à canon.
Merci Yves Bourdillon, journaliste au service international des Échos. Vous pouvez retrouver son reportage sur le site des Échos. On vous le met en lien dans la description de cet épisode. Et pour prolonger votre expérience et profiter de l'essentiel de l'actualité, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien dans la description ou en vous rendant sur abonnement.leséchos.fr/la-story. Cet épisode du podcast des Échos a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.